Et nous débutons avec le journal de Camille Magnard que je salue. Bonjour Camille.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La Turquie à l'avant-veille d'élections cruciales, présidentielles et législatives. Les Turcs vont-ils offrir le pouvoir absolu sur un plateau au président Erdogan? Eh bien, c'est pas si sûr. Le vote pro-kurde pourrait perturber le plébiscite annoncé, nous dira Éric Biégala.
Et puis, l'Eurogroupe siffle la fin de la crise grecque. 8 années de mise sous tutelle austéritaire qui s'achève par un dernier versement de 15 milliards d'euros d'aide financière et un dernier allègement de la dette d'Athènes.
Face aux barrières douanières américaines, l'Europe a déclenché cette nuit ses mesures commerciales de rétorsion sur taxes à 25% pour le beurre de cacahuète et les berlines de luxe, entre autres, mais Bruxelles semble ne pas avoir dit son dernier mot.
L'opposition en France prend fait et cause pour les veufs et veuves. Les pensions de réversion vont-elles souffrir de la réforme annoncée des retraites? Le gouvernement tente de rassurer.
C'est aujourd'hui la journée nationale de réflexion sur le don d'organes avec une règle que l'on ne répétera jamais assez. Nous sommes tous potentiellement receveurs d'une greffe qui pourrait nous sauver la vie. Alors nous sommes tous donneurs jusqu'à preuve du contraire. Et puis le billet écho de Jean-Marc Chardon avec Édouard Philippe qui veut encourager le financement public des start-up fragiles. À leur départ, il s'agit de rendre plus visible la main de l'État dans ce secteur. La question du jour, Guillaume Erner.
Qui est responsable du fiasco Autoli? Puisque on peut se dire quand même entre nous, Camille, qu'il s'agit un peu d'un fiasco. On posera la question à Emmanuel Grégoire, adjoint à la maire de Paris en charge du budget.
N'allez pas croire que les jeux soient complètement faits en Turquie. Certes, l'homme fort d'Ankara, Recep Tayyip Erdogan, compte sur la double élection de dimanche, présidentielle et législative, pour asseoir encore un peu plus son emprise et celle de son parti, l'AKP, sur le pays. Mais la victoire à la présidentielle ne semble pas acquise dès le premier tour pour le président sortant. Et au Parlement, l'opposition pro-kurde, le HDP, espère toujours contester la puissance du camp Erdogan, Éric Biégala.
Les Kurdes de Turquie n'ont évidemment aucune chance dans ces élections. Le parti HDP, pro-kurde, ne devrait récolter qu'entre 8 et 12% des votes à la législative, mais c'est justement autour de ce score-là que tout se jouera. Les partis doivent en effet recueillir au moins 10% des suffrages aux législatives pour avoir des députés à l'Assemblée, faute de quoi les votes, en l'occurrence ceux du HDP, seront répartis proportionnellement entre les autres partis selon leurs résultats, avantageant évidemment celui qui sera sorti en tête, probablement l'AKP. C'est la raison pour laquelle par exemple, le journaliste bien connu Ahmet Çiçek a décidé de se lancer en politique, dans la campagne, sous les couleurs du HDP à Istanbul.
Tout le monde sait très bien que si le HDP dépasse le seuil des 10%, l'AKP perdra sa majorité au Parlement. Ils auront moins de 300 députés.
Du côté d'Erdogan aussi, on a compris l'enjeu. D'ailleurs, le président recommandait encore au cadre de son parti la semaine dernière de se concentrer sur le vote pro-kurde du HDP. Il leur demandait d'être présent dans les bureaux de vote pour éventuellement y remplacer les assesseurs des autres partis, histoire de dominer ces bureaux de vote, suggérant qu'il pourrait en influencer le résultat. D'autres petits arrangements ont été pris dans les zones du pays où le vote HDP est majoritaire, le Kurdistan. Près de 130 000 électeurs, par exemple, ont vu leur bureau de vote déplacé, parfois de 50 km, histoire de limiter au maximum le vote HDP.
Et dans l'opposition turque, il y a aussi et surtout le CHP, Parti Social-Démocrate, et son leader Muharrem İnce, qui ont réuni, mine de rien, plusieurs dizaines de milliers de personnes hier lors d'un meeting à Izmir. 2,5 millions même, selon les organisateurs. Muharrem İnce semble être le seul à pouvoir forcer Erdogan à livrer un second tour lors de cette présidentielle turque de dimanche. Et puis l'invité donc de ces matins, Guillaume, c'est aussi consacré bien sûr aux élections turques.
Et oui, et c'est Edem Eldem, professeur d'histoire à l'université de Bogazici à Istanbul. C'est le nouveau titulaire de la chaire internationale d'histoire turque. Camille.
On la savait en opposition avec son mari dans la polémique sur les enfants migrants séparés de leurs parents aux États-Unis. Melania Trump, la première dame, a surpris tout le monde hier en se rendant au Texas. Elle y a rencontré justement des enfants accueillis dans un centre où elle a loué le travail, la compassion, la gentillesse des volontaires d'associations qui viennent en aide à ces clandestins mineurs. Un accroc tout de même à cette visite en forme de service après-vente. La première dame, Melania Trump, donc, portait un blouson sur le dos duquel on pouvait lire ce message. Je m'en fiche complètement. Et vous? Cela aura pris 6 heures de réunion cette nuit au ministre des Finances de la zone euro, mais l'accord, eh bien là, l'Eurogroupe signe la fin de 8 années de plans de sauvetage, de mise sous tutelle et de politique d'austérité imposée à la Grèce. Le bout du tunnel assorti d'un dernier allègement de la dette grecque qui aura fait débat jusqu'au tout dernier moment, Lax Milota.
La crise grecque s'achève ici, cette nuit. C'est un moment historique, s'est félicité le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici. Je suis heureux, a également affirmé le ministre grec des Finances. Selon plusieurs sources, les discussions se sont prolongées car l'Allemagne n'était pas totalement d'accord avec l'allègement de la dette, pourtant jugée nécessaire par les créanciers de la Grèce. Une dette qui reste la plus élevée de l'Union. Les Européens ont accepté d'allonger de 10 ans les échéances de remboursement. Ils se sont également entendus sur le versement d'une toute dernière tranche d'aide de 15 milliards d'euros. Athènes sera donc sortie du programme d'aide en août, mais restera sous stricte surveillance jusqu'en 2022. Une surveillance bien plus étroite que celle mise en place dans le passé pour le Portugal, Chypre ou l'Irlande. En 8 ans, les Grecs ont été contraints de mettre en œuvre plusieurs centaines de réformes d'austérité. Je rends hommage au peuple grec pour sa résilience et son engagement. Ces efforts n'ont pas été vains, a tweeté le président de la Commission européenne.
Lakshmi Lotha à Bruxelles, où l'on aura mis le temps, mais les voici bien en application, les barrières douanières érigées par l'Union européenne en réponse aux surtaxes imposées depuis le 1er juin par Donald Trump sur l'acier et l'aluminium européen. Les droits de douane sont relevés à 25% pour de nombreux produits made in USA. Une première salve plutôt mesurée, Quentin Dickinson.
Les Européens ne s'attendent pas vraiment que Donald Trump se montre sensible au fait que leur réplique soit conforme à la procédure prévue en pareil cas par l'Organisation mondiale du commerce et que cette réplique ne porte que sur 2,8 milliards d'euros par rapport à un préjudice total estimé à 6,4 milliards. Au contraire, on suppute ici la vraisemblance du risque de nouvelles cibles de la part du pro matinal du tweet à la Maison-Blanche, les berlines de haut de gamme ou les machines-outils ou les produits chimiques ou les vins et spiritueux par exemple. On retient des articles choisis par les Européens, les plus symboliques du mode de vie à l'américaine, blue jean, bourbon, grosse moto, mais c'est le secteur agroalimentaire qui devrait le plus en pâtir. Le maïs, le riz, le jus d'orange, le beurre de cacahuète proviennent en effet en grande partie des 9 États du Corn Belt, véritable Trumpland électoral. Tout cela sera taxé à 25%, sauf bizarrement les paquets de cartes à jouer qui n'écoperont que de 10%.
Quentin Dickinson.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Camille Magnard. En France, le gouvernement prépare sa réforme des retraites et la première levée de bouclier dans l'opposition de droite comme de gauche concerne les pensions de réversion.
Et ce système qui permet aux veufs et aux veuves de toucher une partie de la pension de retraite de leur conjoint décédé. Au moment où le gouvernement dit vouloir remettre à plat ou encore harmoniser les différents types de pensions, syndicats et politiques crient déjà « touche pas à la réversion », Manuel Ruffez.
Les droits familiaux et conjugaux, ce sont ces fameuses pensions de réversion, mais aussi, par exemple, la majoration des pensions ou ces trimestres gagnés en fonction du nombre d'enfants. Des sujets ô combien sensibles. Si bien que quand la question est posée aussi abruptement que « faut-il maintenir les pensions de réversion ?», Force ouvrière s'étrangle et craint des économies. Juste là, Philippe Hillet, de FO.
La prochaine fois qu'on va voir le haut commissaire, on va lui dire « attendez là, vous harmonisez et en même temps vous êtes obligé de faire des économies. Si ça, ça ne s'appelle pas de l'alignement par le bas ». Il y a un vrai problème de crédibilité de la parole ministérielle, puisque Madame la ministre, le 19 avril dernier, a déclaré au Sénat que cette réforme des retraites n'aurait pas pour but d'aligner vers le bas.
Ces sujets, c'est de l'étoupe, de l'amadou, explique de son côté la CFDT. Ça s'enflamme vite, et pourtant ne pourra pas s'éviter de réflexion sur ces dispositifs, dit Frédéric Sèvres de la CFDT.
Il faut régulièrement s'interroger sur l'adéquation de ces dispositifs à leur objectif. On ne lutte pas de la même manière contre les inégalités hommes-femmes en 2018. Qu'en 78 ou en 58 ou en 48. C'est logique de faire évoluer ces dispositifs de solidarité avec les besoins de solidarité de la société.
Mais le syndicat affirme aussi pas question d'étricoter des droits de solidarité auxquels tout le monde est très attaché.
La grève à la SNCF, c'est aujourd'hui et demain la 17e séquence d'un calendrier intersyndical qui en compte 18 et qui prend fin donc jeudi prochain. Hier, la SNCF, on le rappelle, a été condamnée par la justice à payer les jours de congés pris par les grévistes entre deux séquences de grève en pointillés. La société a fait appel. L'entourage de Nicolas Sarkozy a-t-il tenté de faire annuler la condamnation à perpétuité du beau-frère de Muammar Kadhafi en échange d'un financement illégal de sa campagne en 2007 ? C'est ce qu'affirme Mediapart à nouveau dans un nouveau volet de révélations sur les liens troubles entre l'ancien président français et feu le dictateur libyen. Nous détaillerons ces accusations retentissantes dans le journal de 7h30 avec Florence Thur. Mais voilà à présent un sujet qui mérite bien que l'on médite dessus au moins le temps d'une journée. C'est aujourd'hui, justement, le 22 juin, la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Et c'est l'occasion de rappeler que 57 000 Français vivent aujourd'hui grâce à une greffe. Nous pouvons tous être amenés un jour à être sauvés par un don d'organes. Et en corollaire, nous sommes tous donneurs potentiels, sauf refus clairement exprimé. Tara Schlegel.
La France est l'un des pays qui pratique le plus cette transmission si particulière quand la mort apporte la vie. Néanmoins, il y avait l'an passé 4 fois plus, 25 000 malades en attente de greffons, rappelle le professeur Bastien de l'Agence de biomédecine.
Il y a une progression constante et forte, mais elle n'est pas suffisante parce que le diabète augmente, parce que les Français vieillissent et qu'en vieillissant, un certain nombre de pathologies chroniques qui autrefois aboutissaient à la mort, aboutissent maintenant à une insuffisance d'organes terminales qui nécessite une greffe. Alors, quand j'ai commencé ma carrière, on ne faisait pas de greffe cardiaque après 45 ans, parce qu'on considérait qu'à 45 ans, on était déjà un petit peu vieux et qu'on ne pouvait pas faire de greffe. Actuellement, on peut faire des greffes après 60 ans, même si on sait que ça peut être un peu plus difficile.
Le message reste donc tous donneurs, sauf refus explicite, mais aussi tous receveurs potentiels.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination ni en fonction de l'âge, ni en fonction de ses convictions. Je dis ça parce que dans certains pays, par exemple, on ne peut pas être greffé si on est opposé au don d'organes.
Cette solidarité universelle, Fabienne en a bénéficié. Elle a reçu un rein il y a 28 ans.
Moi, je l'ai adopté pratiquement tout de suite. Alors, je pense souvent à mon donneur. Je sais que le rein lui appartient. J'en prends soin. J'essaie de faire au mieux. Mais maintenant, je l'ai acquis un peu comme mon rein. Alors, c'est vrai que c'est une personne décédée. Mais bon, après on se dit qu'avec une personne décédée, effectivement, on peut sauver plusieurs personnes, puisqu'on prend les poumons, le cœur, les reins, on prend les cornets, on prend plein de choses, quoi. Et c'est vrai que on remercie pas assez les familles des donneurs, mais le geste est très beau et c'est vrai que on prend pas conscience, on n'en parle pas et quand ça arrive, par contre, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les personnes en attente de greffe.
Comme Fabienne, les trois quarts des personnes vivent bien 10 ans après leur greffe.
Un reportage signé Tara Schlegel.